Mon conseil, c'est ne pas forcément se fier à tous les conseils. Cette nouvelle loi, c'est une aubaine pour les pères. C'est vraiment utile. On a du mal à se souvenir de ce qu'on faisait avant.
Être père aujourd'hui, à l'heure de la crise sanitaire. Le réseau de périnatalité Auréane donne la parole au papa en période post-natale. Devenir père est une étape particulière, chargée d'intenses émotions positives, mais parfois de doutes, voire de craintes. Dans une société en pleine évolution, la place des pères change, son rôle aussi. Le père est ainsi souhaité plus présent auprès de son bébé. Dans un partage des tâches avec la mère, comme en atteste l'allongement récent à 28 jours du congé paternité. Mais qu'en est-il réellement? Et est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact sur le devenir père? 20 papas habitant dans les Hauts-de-France ont accepté de partager avec nous leur vécu et la réalité de leur expérience.
Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Pruvot. Nous sommes à Saint-Léonard, qui est un petit village qui se trouve à quelques kilomètres de Boulogne-sur-Mer. Et Guillaume est l'heureux papa de la petite Marie. Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, j'ai 34 ans. Je suis comptable dans une société qui se situe à Calais. Et j'ai actuellement deux enfants. Un de 5 ans et le deuxième qui va bientôt avoir 2 ans.
Comment avez-vous vécu la grossesse de votre partenaire ?
Comme c'est le deuxième enfant, on l'a vécu beaucoup mieux que le premier. On s'est posé moins de questions, on a été tout de suite rassurés de savoir à qui il fallait s'adresser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes sur le premier, de savoir comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, à qui il faut s'adresser. Ça a été, pour le premier, relativement stressant. Pour le deuxième, ça a été beaucoup mieux.
Pendant cette grossesse, donc, on était en pleine période de Covid. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez eu des symptômes particuliers?
Ça a été beaucoup d'anxiété. Notamment, c'était une période où on ne savait pas ce qui allait se passer le mois suivant. C'est-à-dire que même les professionnels de santé étaient incapables de dire « à l'hôpital, on va faire comme ça ». Ça a été dans l'incertitude jusqu'à la fin. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas été assez serein jusqu'à la fin pour savoir comment ça allait se dérouler.
Et est-ce que vous vous êtes senti, justement, par les professionnels, suffisamment accompagné, entouré, conseillé, et peut-être aussi par vos amis, votre famille ?
Ça a été, notamment pour mon premier enfant, ça a été assez compliqué, étant donné que ce soit dans la famille, dans les amis, ou même dans mon milieu professionnel, j'ai été l'un des seuls à avoir un enfant. Ça, c'est revenu après. Mais j'ai été le premier à avoir un enfant. Et du coup, c'est vrai qu'on a été... on a été très anxieux de savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment on va gérer la situation. Par contre, c'est vrai qu'à l'hôpital, on a eu la présence de professionnels. On a eu accès à un psychologue s'il fallait parler. Des réunions vraiment... centré sur les parents, les papas principalement, de nous expliquer comment l'accouchement va se passer. On va visiter l'hôpital, on va visiter la maternité. Et ça, franchement, ça a fait du bien et ça a répondu à toutes nos questions pour l'avenir.
Donc ça, c'était pour votre premier enfant?
Pour le premier enfant.
Et pour la deuxième, donc pour Marie, c'était plus compliqué?
C'était plus compliqué étant donné qu'on n'avait pas un accès à l'hôpital comme on le voulait. Notamment, beaucoup de services ont été fermés pour mettre à disposition du Covid. Du coup, on a longtemps, même si on posait les questions, on nous a rassurés et par téléphone, mais on n'a pas eu ce service et cette visite de la maternité qui pouvait nous faire du bien.
Alors, malgré le Covid, est-ce que vous avez pu quand même suivre votre épouse dans ses différents examens, c'est-à-dire les échographies, les consultations prénatales, etc.
Alors, principalement, les échographies. J'ai pu y assister, à l'exception de la dernière, où c'était une grosse vague de l'épidémie. Et du coup, cette échographie-là, j'ai pu la faire en visio. C'est-à-dire, ma femme a pris son téléphone et la sage-femme nous a conseillé mais moi à distance. On perd cet aspect de proximité, mais on gagne sûrement en sécurité.
Alors, est-ce que c'est important pour vous d'être présent sur ce suivi médical ?
C'est vraiment... pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'on voit tout, on voit les images, on voit le cœur, on voit les jambes, le bras, etc. Et pour moi, c'est très important d'avoir accès et de parler directement aux professionnels pour ça. C'est vrai que passer par un téléphone portable ou un autre intermédiaire, c'était un peu plus compliqué. On avait du mal à s'en rendre compte au final. Qu'est-ce qui se passait ? Est-ce qu'il y avait un problème ? Est-ce que tout allait bien ? C'est vrai que j'aurais peut-être souhaité plus de proximité avec les professionnels à cette période-là. Après, on a parfaitement conscience que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, c'est vraiment une période unique. Et du coup, voilà, c'est passé, mais on aurait pu... plus de proximité, ça aurait été mieux, ouais.
Comment vous êtes-vous préparé justement à cette naissance ? Est-ce que vous avez, par rapport au premier enfant que vous aviez eu, fait des choses différentes ? Est-ce que vous avez lu des bouquins ? Est-ce que vous avez écouté des podcasts ?
On a principalement eu l'aide, le soutien, notamment pour le premier, moins pour la deuxième, dû la mise à disposition du psychologue qui était réservé pour l'hôpital, pour la maternité. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pour le premier apaisé. Au deuxième, on avait des automatismes, on savait comment gérer la situation, même en une période très compliquée, notamment la pandémie. On s'est posé, disons, moins de questions avec Marie plutôt qu'avec mon premier.
Et quel impact, si vous faites le bilan avec le recul maintenant, quel impact a eu le Covid pendant la grossesse par rapport à une grossesse normale que vous aviez connue sur le premier enfant ?
Alors l'impact, c'est forcément la distanciation avec nos proches, famille, amis, même milieu professionnel. On n'a pas eu ce matraquage de conseils, de soutien, de... on a été quasiment livrés à nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose.
Et pour quelle raison ce n'est pas une mauvaise chose ?
C'est pas une mauvaise chose parce que on n'a pas... moi, ce que je dis, c'est le conseil de tata, de mamie, que ce n'est pas forcément le mieux adapté à la situation, à notre époque. Forcément qu'on a des réflexions sur une incompréhension de cette période du Covid. On nous a rejeté souvent la balle disant on n'a pas pu faire une visite, un conseil, voire parce que c'est dommage ou c'est forcément notre faute, ou ça a été un peu là-dessus socialement assez pénible.
C'est-à-dire qu'on vous reprochait de ne pas faire les choses, certaines choses.
Voilà, que ce n'était pas forcément le problème du Covid, mais c'était lié aussi à notre envie d'avoir une distance avec les autres. Ça a été perçu principalement et avec la famille, un peu moins avec les amis, parce que le Covid a pris notamment la distance là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a été là-dessus, du coup, livrés à nous-mêmes et c'était mieux. Ouais.
Alors, est-ce que vous avez pu assister à l'accouchement ?
Oui, j'ai pu assister à l'accouchement. C'est vrai qu'on entendait à droite à gauche, on regardait des reportages de pères qui ne pouvaient pas, ou des hôpitaux qui refusaient l'accès à ça. J'ai eu la chance, oui, d'y assister. C'était plutôt appréciable.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti ?
J'ai ressenti comme avec le premier, c'est intense, hein. C'est un moment très particulier. Je dis, nous, les pères, on ne sert pas à grand-chose pendant l'accouchement. Il y a énormément de professionnels qui tournent autour de ma femme. C'est ce sentiment d'être heureux, mais à la fois être anxieux, de se sentir inutile. C'est un mélange de tout ça, c'est assez particulier.
Et vous vous êtes senti donc inclus ou exclu de cet accouchement ?
Inclus, les personnels ont toujours eu un mot pour moi, de savoir mon état, comment ça allait. Après, principalement, dire que j'avais une douleur là ou quelque part, c'était un peu risible. Mais c'est vrai que les professionnels ont toujours été en présent, ne m'ont jamais exclu, ont toujours parlé en m'incluant dans les démarches, en me montrant pas mal de choses. Mais c'était vraiment appréciable.
Et est-ce que, à cause du Covid, vous aviez des angoisses particulières ou supplémentaires par rapport au premier accouchement de votre épouse ?
Alors, oui, parce que on était arrivé dans une période où il y avait une pénurie de produits anesthésiants. Et donc, on nous avait fait comprendre que il n'y aurait peut-être pas de péridurale. Et du coup, ça a apporté forcément une angoisse vis-à-vis de ma femme et forcément vis-à-vis de moi, disant comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va le subir plus qu'au premier accouchement ? Et du coup, il s'est avéré que tout s'est bien passé, pas de pénurie et tout. Enfin, on a pu assister à vraiment tout.
Est-ce que vous avez pu prendre votre petite fille dans les bras tout de suite après l'accouchement ?
Je n'ai pas pris ma fille tout de suite, immédiatement, parce qu'il y avait forcément les tests. Il y a ces 2 heures médico-légaux. Et du coup, c'est vrai qu'on a préféré que les professionnels regardaient attentivement le bébé. Et ensuite, j'ai pu la prendre, oui.
Vous êtes resté combien de jours à la maternité ?
C'était entre 3 et 4 jours, je ne me souviens plus.
Et vous pouviez y aller tous les jours ? Vous êtes resté là-bas avec votre épouse ? Vous avez dormi sur place ou...
Alors, je n'ai pas dormi sur place. Je n'avais le droit qu'à un seul aller-retour. C'est-à-dire, une fois que je partais, je pourrais rentrer que le lendemain. Du coup, forcément, on optimisait. Je restais au maximum. J'y allais le matin, je repartais le soir. Mais c'est vrai qu'on a préféré avoir aussi que je puisse faire les nuitées à la maison. Pour le deuxième enfant, pour le premier enfant, pardon. Et du coup, c'était quand même un mieux pour tout ça.
Et vous n'aviez pas droit aux visites de quiconque ?
Non. En fait, c'était les visites purement et simplement interdites pour famille, amis, etc. Et là-dessus, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon aspect de ce Covid. Disons que c'est plus, on n'était plus alourdi par la présence, par les visites. C'est fatigant, un accouchement. C'est très fatigant. Et par exemple, c'est vrai qu'à l'après-midi, en plein milieu d'après-midi, ma femme pouvait dormir tranquillement, sans avoir d'a priori, sans avoir de pression, sans avoir de directive. Et ça, on l'a remonté au personnel soignant, disant que les visites interdites sont plutôt une bonne nouvelle. Comparé, nous, on a vu l'expérience avec notre premier enfant, auquel on était 15 dans une chambre, simplement pour dire « il faut passer pour voir l'enfant ». J'avais du mal avec cette idée-là au premier. Ça m'a conforté au deuxième, disant « non, la visite interdite, c'est plutôt très très bien ».
Donc vous pensez que c'est une mesure qu'on devrait garder après le Covid ?
Alors, c'est mon avis personnel, disant que la visite... c'est plutôt le non-visite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on m'a certifié que je n'étais pas du tout le seul à remonter l'information et que suite à ça, suite au Covid, il y aura des nouvelles mesures qui vont apparaître pour soulager madame et monsieur.
Donc après la maternité, ces 3-4 jours, vous êtes rentré à la maison ?
Exactement.
Comment ça s'est passé, ce retour à la maison ?
Ça s'est plutôt bien passé. On se sent toujours mieux chez soi que sur un lit d'hôpital. C'est vrai que je n'ai pas été très... Je ne suis pas un grand fervent admirateur de l'hôpital. Du coup, forcément, on se sent plus apaisé. On a moins de pression, on ne nous visite pas toutes les heures, on vient pas prendre la température de notre enfant toutes les 2 heures, et du coup, c'est plus apaisant pour l'enfant et également pour nous. Et comme on a déjà un premier enfant, on sait comment aller un peu plus loin sereinement, on sait comment le nettoyer, l'apaiser s'il le faut, et c'est beaucoup plus facile.
Et comment s'était organisée cette vie à 4 à la maison ?
Ça a été assez compliqué, étant donné qu'on avait pas idée de savoir qu'est-ce qui va se passer. Après, ça s'est fait assez naturellement. On a notre enfant, notre premier, forcément, on voulait également de l'attention, parce que on en portait pas mal sur ma fille. Et après, on a un peu bafouillé sur les premières journées, mais ça s'est pas bien passé sur les semaines suivantes. Ça a été assez... Il faut redéfinir les règles, il faut redéfinir la définition même d'une famille. De passer à 3, à 4, ça change aussi pas mal de choses.
Et comment vous, justement, en tant que papa, vous vous êtes placé par rapport au bébé, par rapport au premier enfant, et comment vous avez trouvé votre place ?
Ma place ! Ça a été assez... naturel. Ça a été naturel, notamment même au premier, disons, j'avais une volonté de participer. On voit très souvent dans les spots pub ou les choses à la télé, ces mamans qui s'occupent de l'enfant. Je voulais pas forcément ce rôle-là à la maison. On se répartit à deux, on se répartit les tâches de savoir qui fait quoi, sachant que si... l'un s'occupe du premier, l'autre s'occupe du deuxième. Ça se fait assez naturellement et c'est assez plaisant.
Et alors, si on rentre un peu dans le détail, est-ce que les pleurs, l'alimentation, l'échange, c'est quelque chose que vous faites ?
Je fais, oui. Les pleurs, je vous avouerai un peu moins. on s'est plutôt réparti les tâches. Ma femme s'occupait plutôt des nuits, comme je travaillais moi le lendemain. Ma femme est en congé maternité et du coup c'est elle qui s'occupait plutôt des nuits et moi je m'occupais après le travail de tous les biberons, de la changer, assez naturellement, oui.
Est-ce que vous avez bénéficié d'un congé paternité ?
J'ai eu, alors c'était à l'époque quand c'était les 11 jours et pas le mois. Donc oui, j'ai eu un congé paternité de 11 jours pour aider aussi ma femme dans... Parce que c'est vrai que c'est les premiers mois sont assez compliqués, étant donné que on ne communique pas, enfin le bébé ne communique pas, ou pleure assez régulièrement pour demander quelque chose. Et c'est vrai que ces 11 jours, ça a plutôt soulagé et moi d'avoir participé, et ma femme que je reprenne quelques tâches en attendant.
Et est-ce que vous estimez que ces 11 jours étaient suffisants ? Ou vous pensez que ça aurait été mieux de bénéficier de la nouvelle loi qui est passée après, c'est-à-dire le prolongement ?
Cette nouvelle loi, c'est une aubaine pour les pères. C'est vraiment utile. C'est très utile parce qu'en 11 jours, il se passe beaucoup de choses. Mais ça reste quand même relativement peu pour savoir. C'est vrai que c'est le premier mois qui est très important, auquel c'est le plus fatigant, et du coup c'est vrai que les un mois de congé paternité, c'est plutôt intéressant pour les nouveaux pères, oui.
Est-ce que si vous aviez demandé à votre employeur un délai plus long, il l'aurait accepté ?
J'y ai pas pensé, après c'est vrai que mon employeur est assez conciliant, c'est-à-dire j'avais posé mes 11 jours, quelques congés supplémentaires de mon compteur. Ils ont été vraiment au fait et de bons conseils également pour ça.
À quel moment, je dirais, vous avez retrouvé une vie de couple normale, un équilibre ?
C'est une vie normale, on peut dire à peu près aux 3 mois de l'enfant. C'est là où ça commence vraiment à se calmer. Les nuits commencent à être plus longues. Et ça commence là à faire du bien. Et c'est vrai que je dis pas que les premiers mois, les 3 premiers mois sont insurmontables. C'est faisable, c'est dur et il faut le savoir. Par contre, c'est vrai qu'on commence à retrouver une habitude au bout du 3e mois, oui.
Dans l'organisation de la vie familiale, est-ce que vous considérez que votre épouse aurait ou a des compétences particulières que vous n'avez pas, ou l'inverse, que vous avez des compétences qu'elle n'a pas ?
Ah, c'est une bonne question, ça. après, c'est vrai que dans mon passé, j'ai jamais été très, très enfant. On en a eu deux, c'est formidable. C'est vrai que j'ai jamais au début, ça a été assez compliqué d'avoir cette fibre que a ma femme actuellement. Après, c'est vrai que je participe à tout, je joue régulièrement avec mes enfants, et c'est, je trouve que ma femme est plus présente, plus prévoyante envers eux.
Je vois effectivement beaucoup de jouets dans cette salle à manger. Donc, vous dites que vous jouez beaucoup avec vos enfants ?
Oui, exactement. Et après, c'est vrai qu'à leur âge, bah, il leur faut au moins 10 jouets toutes les demi-heures. Et du coup, ça fait du bazar. ouais, c'est vrai qu'ils jouent... c'est important. Il y a énormément de jouets en ce moment qui les éveillent, qui leur apprend énormément de choses. Des puzzles en tout genre, des dictionnaires... Pour mon plus grand, c'est des dictionnaires avec des mots en anglais, des chansons, et c'est très intéressant. Et on voit, grâce à ça, des progrès sur nos enfants.
Alors justement, quel père vous pensez être en 2022 ? Ça signifie quoi pour vous être père aujourd'hui ?
C'est actuellement, bah, pour moi, c'est la responsabilité. Il faut... Je pense que notre rôle, c'est amener notre enfant sur le droit chemin, leur expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Pas forcément, crier, être dur avec eux. Il faut simplement les expliquer, ils comprennent parfaitement. Et il faut leur expliquer le monde auquel on vit, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas... Ouais, le bien, le mal, c'est deux notions assez importantes et... Il régulièrement, c'est pour ça que c'est important également de leur parler, de leur expliquer. Ouais.
Quelle différence vous pourriez voir entre votre papa et vous ?
C'est assez curieux parce que c'est vrai, en voyant mes enfants, en parlant à mes enfants, je revois certaines réactions de mon père. Et du coup, inconsciemment, j'ai quasiment la même façon de penser que lui, notamment ouais, sur les enfants. Les mêmes quasiment réflexions, le comportement, et je trouve ça assez curieux.
Et vous pensez qu'il participait, vous vous souvenez qu'il participait de la même manière ?
Il avait le rôle que j'ai actuellement avec mes enfants. Il était toujours présent. C'était pas un grand joueur, mais, mais ouais, on participait à pas mal de choses. Ouais. On faisait des trucs, on avait une notion, j'ai deux autres frères et c'est vrai qu'on avait des notions de partir, de se balader, et du coup ça crée vraiment un climat familial assez intéressant.
Alors après ces deux petits, quel conseil vous pourriez donner à des futurs papas pour lesquels ça va être le premier, après avoir vécu donc une grossesse, on va dire, normale et une grossesse avec le Covid.
Alors, mon conseil, c'est ne pas forcément se fier à tous les conseils. C'est vrai qu'on a de tout et son contraire. On voit à la télé, même dans des spots de pub, on voit dans des bouquins, des revues spécialisées, on a... En fait, il y a plusieurs façons de prendre son enfant, il y a plusieurs façons de lui donner son biberon. Et souvent, même de la famille, on devrait plutôt faire comme ci, plutôt faire comme ça. Et ça a été assez pénible pour nous. Et c'est vrai que je trouve, on a trouvé ça intéressant de dire qu'on le fait seul, nous-mêmes, qu'on n'a pas forcément... besoin d'écouter tout le monde pour que l'enfant se sente bien. Apparemment, c'est même sûr. La seule personne qui va dire si on le fait bien ou pas, c'est l'enfant en lui-même. Si c'est mal fait, il va pleurer, il va crier, on va le sentir mal à l'aise. Mais c'est vrai que à écouter tout le monde, on ne pourra pas forcément faire quelque chose de bien. Et notamment, on le voit avec toutes les émissions de la télé disant que la famille, elle est parfaite, la famille, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, et tout ça, ça nous met également dans une position inférieure, disant, nous, on a échoué, là où, quand on dit ça, ils ne nous écoutent pas, on crie tout le temps, et on se sent forcément inférieur à ce que on voit dans le monde extérieur.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'homme de devenir papa de deux enfants ?
Ça a changé. On a du mal à se souvenir de ce qu'on faisait avant. C'est vrai qu'avant, on avait énormément, oui, de temps, on pouvait faire ce qu'on voulait. Là, on a plus une notion de faire quelque chose pour son enfant. C'est-à-dire, les sorties sont conditionnées pour les enfants, les restaurants sont conditionnés pour les enfants, et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réfléchit, sont conditionnés pour eux. Et on sait qu'on a du mal, on n'arrive pas justement à retourner à cette vie d'avant. Même on a du mal à s'en souvenir, comment on faisait avant. Ça a été très difficile de conditionner et la vie familiale, et la vie sociale, et la vie professionnelle. Et du coup, c'est vrai qu'il a malheureusement dû faire quelques sacrifices dans notre vie de parents, qu'on est convaincu que dans les années à venir, quand ils sont plus grands, quand ils pourront participer un peu plus les enfants, on pourra retourner à une vie à peu près normale. C'est vrai que là, c'est assez c'est dur. Il faut se dire que le rôle de parent, c'est compliqué. Il faut de la patience, il faut du calme, et c'est pas facile.
Merci, Guillaume.
Merci beaucoup.
Cette série de podcasts a été réalisée par BM Music Prod en collaboration avec Mélissa Ferdouze, chargée de projet au sein de l'association Auréane, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.